des livres plein les oreilles.
Salut tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Clotilde Sey, je suis en direct ou presque du Chic Studio de Canal M qui produit ce balado hebdomadaire qui porte bien son nom, des livres plein les oreilles, puisqu'il ne se consacre qu'aux livres qui s'écoutent. Cette semaine, on va faire connaissance avec un nouveau joueur dans le domaine du livre audio, mais pas dans le domaine de l'édition. Ce sont les éditions de La Fabrique. C'est une maison d'édition française qui, sur papier, existe depuis déjà quelques années, mais tout d'un coup qui a décidé d'ouvrir, pouf, un axe sur le livre audio et dont la mission s'avère très différente de ce que font les autres maisons de production de livres audio, et c'est pour ça que ça m'a interpellée. Les questionnements, les bouleversements, les idées de notre époque, c'est vraiment tout ce qui préoccupe l'équipe de La Fabrique, et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'ai invité Claire Jantet, que, oui, j'ai déjà cité son nom à Claire parce qu'elle a longtemps fait partie de l'équipe d'Audiolib dont je parle assez souvent à cette émission-là. Et donc, elle a rejoint les rangs de cette fabrique et elle sera en mesure de nous en dire un peu plus dans quelques instants. En seconde partie, Gérald Cousineau a écouté pour vous « Mon vrai nom est Elisabeth » d'Adèle Yon. Et j'ai pour finir des nouveautés à vous soumettre dans le domaine du livre audio. Nouveauté du Québec avec « Le jeu qui voulait ma peau » de Magali Laurent. Je suis drôle de David Fuenquinos qui ne doit pas être prêt parce que je pensais qu'il le serait, mais finalement il n'y a pas d'extrait, alors je vous en parlerai une prochaine fois, mais je vais vous parler de Vamos, le dernier livre d'Olivia Ruiz lu par elle, mais d'abord direction Paris.
Le but de La Fabrique, c'est quand même de subvertir l'ordre existant.
Les éditions La Fabrique présentent
Et pour présenter les éditions La Fabrique, Claire Jantet. Bonjour Claire.
Bonjour Clotilde.
Je vous présente comment, Claire, directrice artistique chez Fabrique du livre audio. Quel serait votre titre, comme on dit pompeusement?
Éditrice livre audio.
Éditrice livre audio, en toute simplicité. Voilà. C'est nouveau pour vous aussi, Claire? Pas le livre audio.
Oui. Oui. Alors avant, mon titre, c'était éditrice et responsable de production.
Oui.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'appellation définie pour l'univers du livre audio. Alors soit on garde le vocabulaire de l'édition et on s'appelle éditrice de livre audio, soit on part du côté de la radio et du podcast et on s'appelle productrice.
Et là, vous êtes donc rendue aux éditions La Fabrique. Évidemment, je suis allée lire un peu sur le sujet. Je voulais savoir ce qu'était cette maison d'édition française-là, qui est au départ une maison d'édition de livres papier. Elle est née quand, cette maison d'édition-là, Claire?
Elle a été fondée en 1998 par Éric Hazan, que vous avez pu entendre dans le générique à l'instant. Il est décédé aujourd'hui, mais c'est issu d'une vidéo d'archives. L'équipe qui dirige aujourd'hui La Fabrique, Stella et Jean, souhaitaient que sa voix soit présente pour ouvrir cette nouvelle collection.
Oh, que c'est touchant! Alors pourquoi tout d'un coup ils ont décidé de se lancer dans cette aventure, pour ne pas dire cette galère, en tout cas ici au Québec c'en est une, mais je sais qu'en France c'est quand même pas pareil. Mais donc qu'est-ce qui les a poussés tout d'un coup à dire tiens, et si on en faisait des livres audio?
L'envie d'attirer un nouveau public. Enfin, en fait, l'écoute des livres audio se développe de plus en plus en France, y compris auprès d'un public plus jeune, autour de 30 ans. Et l'équipe éditoriale de La Fabrique est vraiment attentive aux nouvelles formes éditoriales et s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer eux-mêmes et garder la maîtrise surtout de leur collection audio. Plutôt que de vendre leurs droits à des marques audio ou à des grands groupes, ils préfèrent faire eux-mêmes.
Bravo.
Voilà, ils sont fabricants de A à Z.
Bravo, oui, j'adore. Et leur mission est très différente de tout ce qu'on connaît sur le marché en ce moment.
Tout à fait. Historiquement, la maison d'édition est très ancrée à gauche, avec des textes engagés et militants. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça peut être aussi bien des ouvrages de politique, philosophique, de sociologie, ou plus réflexif, avec l'idée soit de témoigner du passé, soit de réfléchir sur le présent, que ce soit l'écologie, le féminisme, le racisme, ou les mutations urbaines, par exemple.
J'ai lu quelque part que il ne faisait travailler que ses amis. C'est
alors
vrai.
Peut-être que quand il l'a fondé en 98, mais aujourd'hui, bon, vu l'ampleur du catalogue,
D'accord.
Ouais, en tout cas, que des auteurs qu'ils apprécient, ça c'est sûr.
Ça
que...
c'est sûr. Non, mais je voulais pas vous embarrasser avec cette question-là, parce que justement, c'est pas parce que ce sont des amis que ce sont des mauvais auteurs. Moi, je suis allée écouter beaucoup de choses, je suis allée lire aussi ce qu'ils proposent dans leur catalogue. On parle de gens qui savent écrire, on parle de gens qui savent penser, qui savent réfléchir, qui savent amener une discussion sur la table. Ça, c'est très, très clair. Regardez ce que je vous propose, Claire, parce qu'on va écouter quelques extraits de livres nouvellement parus par La Fabrique, nouvellement édités en audio. Je voudrais qu'on commence peut-être par le rap, parce que c'est vrai que le rap, ça a été un phénomène social incroyable. Et il y a quelqu'un, il s'appelle Mehdi Maizi, qui s'est penché sur le prix. Le rap a gagné, mais à quel prix? Parlez-nous-en un petit peu de ce bouquin.
Bah, Mehdi Maizi, c'est vraiment un des plus grands spécialistes du rap aujourd'hui en France. Hein. C'est un des premiers à avoir chroniqué les sorties rap sur diverses radios. Et aujourd'hui, il est chroniqueur sur France Inter, parce que même France Inter s'intéresse au rap.
Ouais.
Voilà. Et dans ce texte assez court et ramassé, il retrace l'évolution du rap en France et comment c'est devenu un succès commercial. Et aussi, il a cette richesse de pouvoir présenter toutes les nuances du rap, du plus indé au plus commercial. Et il lit lui-même son texte, puisque sa voix, en tout cas, est connue pour les auditeurs de rap.
Quand vous dites indé, c'est comme indépendant.
Oui, tout à fait.
Je vous suis. On va écouter. Claire, on va écouter un extrait.
Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à parler de rap. Dans le privé, avec mes amis, mais essentiellement au micro, dans le cadre de mon travail. Je ne compte plus le nombre d'émissions que j'ai animées pour réagir, souvent à chaud, à l'actualité foisonnante d'une musique au rythme frénétique, une musique qui ne dort jamais et ne cesse d'abreuver son public de nouvelles chansons. Au cours de ces 10 dernières années, on a aussi vu le rap adopter un nouveau statut, celui, justifié ou non, de musique numéro 1, de genre le plus populaire, un statut acquis grâce à l'avènement du streaming qui a largement contribué à offrir un nouvel âge d'or commercial à des artistes qui avaient de plus en plus de mal à vendre des CD. C'est dans ce contexte que j'ai eu l'opportunité de devenir journaliste rap à temps plein. Une reconversion professionnelle dont je n'aurais pas osé rêver quelques années auparavant et qui s'est présentée à moi comme un miracle. Ce changement de vie m'aura permis d'accompagner de façon privilégiée ce mouvement et ses évolutions. Mais quand on a le cerveau immergé dedans comme je l'ai eu, on a parfois du mal à prendre du recul. Décrypter l'arrivée de PNL, les placements de Hamza ou l'écriture de SCH, je l'ai fait et j'espère l'avoir bien fait. Mais avoir l'occasion de nourrir une véritable réflexion sur la transformation de cette musique, de son public ou de cette industrie, très compliqué à faire quand on doit écouter absolument tous les albums qui sortent chaque vendredi. Ce livre est un pas de recul sur l'agitation du rap francophone. C'est devenu facile de parler de ce qu'il se passe dans cette musique. Et si j'essayais, non pas de parler, mais de prendre le temps de réfléchir plus globalement à ce qu'il se passe et de me faire violence en me remettant à écrire. Le simple fait d'écrire plutôt que de parler, de pouvoir choisir les mots plutôt que de devoir réagir à chaud dans des émissions effrayées par le silence, change complètement la dynamique de la pensée. C'est un livre qui arrive aussi à un moment crucial à la fois dans ma vie et dans celle du rap francophone. En ce qui me concerne, j'ai fêté au mois de janvier 2026 mes 12 années de journaliste rap. Je ne compte pas les années de bénévolat qui ont commencé en 2008. L'approche de la quarantaine dans une musique obsédée par la jeunesse nous amène forcément à nous questionner. Est-ce qu'on a fait le tour de cette musique? Et surtout, est-ce qu'on a encore quelque chose à apporter à cette musique? Dans le même temps, le rap semble être dans une phase de transition. Après que l'on s'est gargarisé de sa bonne santé pendant des années, nombreux sont ceux qui se plaignent désormais d'un rap plus standardisé, moins novateur. Quand on devient aussi populaire et donc pop Par extension, est-ce qu'on peut encore rester excitant? Autant de questions auxquelles cet ouvrage n'est pas sûr d'apporter des réponses, mais auxquelles il livrera au moins des éléments de réflexion. En saisissant quelques sujets centraux du rap francophone, j'essaie d'analyser la manière dont cette musique s'est métamorphosée et les enjeux qui, à l'avenir, vont se présenter à elle. Nous sommes tous d'accord pour dire que le rap a gagné, mais à quel prix ?
À quel prix, effectivement ? Moi, je pensais, honnêtement, Claire Jeantet, que le rap était carrément dépassé en 2026. Mais apparemment, j'ai tort, en tout cas pas chez vous.
Ah, c'est toujours dans le top des écoutes des plateformes de streaming.
Ah oui. Bon, alors écoutez, je vais retourner à ma chanson française. Alors, on parle de cette mission, donc mission volontairement, idéologie volontairement, je pense, à gauche du moins. On se veut dans le social, on se veut dans l'humanitaire beaucoup. Il y a des thèmes politiques qui reviennent et il y a des sujets d'actualité. Bon, là, on a vu la fusée Artemis qui a décollé il y a quelques semaines maintenant et qui, grâce à Dieu, est revenu sur Terre, ou en tout cas sur mer, comme on le souhaitait. Et il y a alors ce livre que je trouve absolument fabuleux, dont je voudrais que vous nous touchiez un petit mot. C'est l'histoire de la conquête spatiale. Et il y a comme un sous-titre que j'aime, « Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space ». Je voudrais préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent que même si je n'ai pas encore écouté ce livre-là, si on parle des fusées nazies, c'est parce que les premières fusées, en fait, ce qu'il y a, et vous me direz si je me trompe, Claire, mais ce qui a donné l'idée, entre autres aux Américains, de créer des fusées, ce sont les V2, ce sont les espèces de bombes qu'on lançait depuis l'Angleterre et qui atterrissaient notamment en France et dont on trouve encore la trace dans certaines forêts, d'ailleurs, près de chez moi. D'où ce sous-titre des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. Bon, ça, c'était voilà, pour la petite page historique. Formidable quand même, une histoire de la conquête spatiale. Ça fait partie de la mission aussi.
Fascinante. Enfin, vraiment, c'est une histoire fascinante puisqu'effectivement, des ingénieurs allemands nazis ont été recrutés par les Américains après-guerre pour développer l'industrie spatiale.
Incroyable.
Ils ont été installés dans une ville avec un salaire, une maison, et ils ont commencé une nouvelle vie. C'était les ingénieurs de Peenemünde. Et donc, tout le premier chapitre est sur cette histoire qui est souvent oubliée ou mise sous le tapis.
Oui, c'est ça qu'on ne sait pas. Moi, j'ai appris vraiment très, très récemment. En écoutant d'ailleurs l'émission spéciale sur le décollage d'Artemis 2, c'est là que j'ai appris par un animateur ici scientifique très connu au Québec qu'au départ, c'était les V2 qui avait donné cette idée-là. Les V2 allemands qui avaient donné cette idée-là de « waouh ». Est-ce qu'on peut en écouter un petit extrait ? Et puis je vous reviens tout de suite après. Je vous préviens, restez bien collés sur vos sièges. Moi, j'étais tellement scotchée sur mon fauteuil au moment du décollage de cette fusée-là il y a quelques semaines que j'ai décidé d'en reprendre encore un petit coup. Allez.
Ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing.
15.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Je voudrais tous vous remercier pour le soutien exceptionnel que vous avez toujours apporté au programme. Car sans les relations publiques et une bonne présentation de ces programmes au public, nous n'aurions pas pu le faire. Werner von Braun, directeur du Centre de vol spatial Marshall de la NASA, s'adressant à la presse après l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune, le 22 juillet 1969. La désignation de l'espace commence souvent à la manière des mauvaises dissertations. De tout temps, les hommes auraient levé les yeux vers le ciel et désiré s'y projeter physiquement, assouvissant par ce biais un besoin de conquête consubstantiel à leur nature profonde. L'espace, comme le fantasme dit disséminer l'espèce humaine, convoque tout à la fois des pensées oniriques, pacifistes et futuristes. En témoignent les nombreuses citations inspirées de présidents états-uniens qui remontent invariablement à la surface de l'histoire, du célèbre « We choose to go to the moon » de John Fitzgerald Kennedy en septembre 1962, aux mots de Richard Nixon à l'équipage d'Apollo 11 fraîchement débarqué sur la Lune. Et alors que vous nous parlez depuis la mer de la tranquillité, cela nous inspire à redoubler d'efforts pour apporter la paix et la tranquillité sur Terre. Dans cet inestimable moment de l'histoire, les humains sont tous unis sur cette Terre. Deux messages qui résument bien l'assimilation du désir d'espace à cet indépassable élan humain qui se ferait par principe au bénéfice de tous. Nous verrons dans ce chapitre qu'une part importante du grand récit qu'il compose tient plus à un travail durable sur les esprits et à une construction culturelle et médiatique qu'à une inclination naturelle de l'espèce humaine pour les moteurs à ergol liquide. Time passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the alternate Miko. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on coordinated engines. Space Launch System core stage. Vous avez dit fascinant. C'est fascinant. Et c'est un des sujets contemporains. Ça m'a surprise cependant, parce que c'est... L'aventure dans l'espace est une aventure qui coûte cher, qui coûte très très cher. Et ça, on l'aura un petit peu reproché encore cette année aux Américains d'avoir dépensé autant d'argent pour faire voler cet engin-là, que finalement on ne sait pas trop à quoi ça va nous servir. Bon, et je me suis dit... donc ça m'a surprise que une maison d'édition comme La Fabrique s'intéresse à ce sujet-là.
Parce que c'est une histoire très critique, en fait, ouais. De la conquête spatiale, à la fois en rappelant ses origines liées au nazisme, mais aussi en interrogeant tout le mythe autour de cette conquête, de s'installer sur une autre planète et de faire ouais. rêver, en fait, des millions de personnes à coup de films, d'histoires, voire de musique.
Oui, c'est vrai.
Et c'est l'intérêt aussi de ce ouais. livre qui a été écrit par deux sociologues, c'est qu'il y a toute une partie historique, mais aussi il y a toute une partie d'analyse de l'imaginaire, d'histoire culturelle, et comment ça peut être aussi utilisé comme soft power, et puis ça va jusqu'au, on va dire, aux lubies ou au désir d'Elon
ouais.
Musk.
Oui. Il y a une femme importante, j'espère que vous la savez, Ouria Boutelja. Elle semblait, je pense, Eric Hazan en parle ou en parlait avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces livres et est-ce qu'ils sont attendus en audio prochainement ?
Je ne sais pas encore ce qui sera publié en 2027. Là, il y a déjà 6 titres pour 2026.
Ok.
Et pour Ouria Boutelja, je vous confesse que je ne suis pas une spécialiste de ses écrits, mais effectivement, ça fait partie des grandes signatures du catalogue de La Fabrique.
Il me semble. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne serais pas surprise si à un moment donné, on pourrait découvrir l'industrie de l'Holocauste, notamment, ou encore Les Blancs, les Juifs et nous, rédigé par Ouria Boutelja. Alors parlons-en de l'avenir. Est-ce qu'on peut déjà nous dire un petit peu, au moins ceux de 2026, ceux qui sont programmés, que nous aurons bientôt l'occasion d'entendre ?
Bien sûr, le prochain, ce sera Restez Baba. Ouh, excusez-moi, Restez Barbare de Louisa Yousfi, qui est un texte vraiment coup de poing où cette autrice s'interroge sur comment rester soi-même, comment. Ne pas se laisser entièrement absorber par la culture occidentale, par la culture des anciens colons. Et elle fait référence, en fait, avec ce titre, à une citation de Kateb Yassine, un écrivain algérien,
ouais.
Qui disait justement il faut rester barbare et conserver quelque chose de cette barbarité dans la langue. Et c'est lu par Mouna Soualem, qui est une actrice exceptionnelle. Et ça sortira le 18 mai, donc vous voyez, dans 10 jours.
Oui. C'est-à-dire que nous, comme l'émission va passer d'ici 2 semaines, ce sera déjà sorti, puis c'est génial. C'est parfait.
Exactement.
Dites-moi, vous me tendez une perche. Vos livres, on se les procure directement sur votre site ?
Il n'y a pas de vente directe, par contre, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
Bon. Voilà, d'oreille.
Voilà, exactement. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais Vivlio, Kobo, Audible. En France, Spotify distribue maintenant aussi des livres audio.
Oui.
Nextory. Enfin, oui. Voilà, normalement, vous le trouverez absolument partout.
Mais c'est ça qui est génial, et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission consacrée aux livres audio, il y est beaucoup aussi question de livres qui sont produits partout dans la francophonie, parce qu'avec le net aujourd'hui, c'est peut-être grâce aux fusées, mais toujours est-il qu'on peut avoir accès absolument partout, quoi, à toutes les productions, et ça c'est merveilleux. Vous savez, à une époque, il fallait se faire envoyer les bouquins par la poste. Nous, ils vont même enlever la poste. Là. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, on a décidé que, hop, là, il n'y aurait plus de facteurs, il n'y aurait plus tout ça. En tout cas, il n'y aura plus de boîte aux lettres individuelles. C'est fou, comme, c'est triste.
Oui, ça paraît hallucinant.
Ça paraît hallucinant, et bien c'est là qu'on est rendu. On va tout recevoir par, en ligne. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, moi, à l'âge que j'ai, à l'âge de mes artères, mon ami... vous comprenez ce que je veux dire, mais je m'inquiète un petit peu pour les petits jeunes des autres. Vous avez parlé très justement, je suis contente que vous l'ayez fait, Claire, de Rester barbare. Je propose qu'on en écoute un extrait.
Les éditions La Fabrique présentent
Rester barbare de Louisa Yousfi, lu par Mouna Soualem. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre National du Livre. Pour attester notre humanité, nous croyons devoir rassurer ceux qui la questionnent. Regardez-nous, nous sommes comme vous. C'est une agitation sans fin. Des efforts démesurés pour faire nôtre leur code, leur manière, leur culture. On les incorpore précipitamment par gavages successifs, mais on a la traîne, toujours à la traîne. Alors on se gave encore et encore. À la fin, ça déborde de tous les côtés, c'est mal digéré. Et il faut l'avouer, ça fait un drôle d'effet, cette gueule de barbare qui baragouine un langage châtié. Si seulement la souillure en était lavée. Mais la démonstration est vaine. À bien y regarder, elle est même un peu minable. Toutes ces contorsions avec soi-même, toutes ces grimaces d'automates pour dire « nous sommes des humains comme eux », se gardant bien toutefois de poser la question qui abolit toutes les autres. Mais eux, qui sont-ils ? Pays acquitté, le passeur noir de Beloved, de Toni Morrison, ne s'emmerde pas, lui. Il dit carrément « que sont-ils ? » C'est à se demander. Celui qui déshumanise est-il au moins l'humain, à partir duquel il croit pouvoir jauger l'âme des autres ? A-t-il seulement une âme lui-même ? Voyez comme soudainement l'interrogation paraît scandaleuse. C'est comme imaginer des corps d'enfants blancs échoués sur les plages méditerranéennes. Encore un retournement qui déshabille le monde. Le jeu est vicié. Plus on tente de prouver notre humanité, plus on fait grandir le soupçon. Commencer à se justifier, c'est commencer à admettre que le doute était permis et qu'il le sera toujours. Oui, et alors, c'est la seule réponse digne. Tout faire péter, saboter la frontière, celle visible tout comme l'invisible, celle qui sépare à l'intérieur de l'Empire les enfants légitimes des sales gosses que nous sommes, enfantés en catastrophe. Car il ne suffit pas de franchir la frontière pour l'abolir. Qui ose croire encore à cette mythologie ? Nous, première, deuxième et énième génération, toute la bande des naturalisés, des droits du soliste, des doubles passeports, des déchéançables de nationalité, le savons trop bien. Franchir leurs frontières sans la détruire, c'est la reconduire derrière soi et derrière soi barrer la route à d'autres barbares fabriqués pour l'occasion. C'est l'histoire du beurre et du blédard, du français issu de l'immigration et du haraga, de l'indigène domestique et du damné de la terre. La rupture est organisée, furieusement encouragée. Même les plus farouches défenseurs de l'Empire sont prêts à négocier. Vous, d'accord, mais eux, non. D'ils ? Voilà, on a trahi. Ce sont les lois de ce monde. L'essence d'une frontière, c'est la possibilité de la trahison. On peut en repousser la cruauté le plus loin possible. Elle finira par nous retrouver et avec elle, l'image de ces corps échoués sur nos plages. On se surprend à avoir dit nos plages. C'est trop tard, bientôt nous dirons nos portes, nos frontières. C'est ce qu'on appelle une intégration réussie.
ça, c'est ce qui s'appelle savoir écrire. L'essence d'une frontière, c'est la possibilité d'une trahison. Ah, celle-là, je l'ai entendue, je l'ai réentendue, réécoutée, écrite et réécrite. Je la trouve tellement belle. On en endresse encore partout en ce moment des frontières, alors on sait que ce sera, comme c'est si joliment écrit, la possibilité d'autant de trahison. Je vous rappelle qu'on vient d'écouter un extrait de « Rester barbare » de Louisa Yufsi. Voulez-vous me répéter le nom de l'autrice? Je ne l'ai pas trouvé.
Vous voulez dire de la comédienne,
Pardon, de la comédienne, pardon. Oui, qui a lu ça.
Mouna Souhelem.
Mouna Souhelem. Eh bien, écoutez, chapeau, et puis chapeau aussi à cette autrice. Et puis, je voudrais citer Kateb Yassin, qui est un peu la grande référence de ce livre-là, du moins la grande inspiration, et qui a écrit « Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivée. Il faut que je garde une espèce de barbarie. Il faut que je reste barbare. » D'où le titre « Rester barbare ». Absolument magnifique. Alors ça, c'est exactement dans la mission hein, des éditions de La Fabrique, Claire Jeantet.
Mais tout à fait, c'est de donner voix à tout le monde et plus particulièrement aussi à des voix qui parfois ont été un peu écrasées par l'européocentrisme. Mmh. Ils n'ont pas peur de textes où les auteurs ou autrices s'affirment, donnent leur avis. C'est toujours évidemment expliqué, justifié, mais il y a souvent, enfin, comme vous avez pu entendre ici, une parole forte qui se dégage des textes édités par La Fabrique.
Ouais, et puis grâce à Dieu, vous êtes dans un pays, la France, nous sommes dans un pays ici, le Québec, le Canada, où on peut encore dire ce qu'on pense. Il y en a beaucoup qui seraient enfermés dans d'autres pays pour avoir tenu des propos comme cela.
Effectivement, on a vu des exemples encore dernièrement.
Oui, avec, comment il s'appelle, l'Algérien
Boualem Sansal.
Voilà, exactement, qui a fini par s'en sortir, mais à quel prix, quoi. Alors, écoutez, Claire Jeantet, ce fut un plaisir de converser avec vous. Ça passe vite, hein, 26 minutes, mais que voulez-vous? Alors, je vous remercie de nous avoir présenté les éditions La Fabrique, qui, je le rappelle à nos auditeurs, se lancent dans la grande aventure du livre audio avec des livres qui font du sens, qui ont du sens. Ce qui font réfléchir, c'est bien écrit, c'est bien lu, c'est formidable et vous trouvez ça sur toutes les plateformes possibles et inimaginables dont Spotify, Audible bien sûr, Boucle d'oreille et d'autres. Claire Jeantet, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Je vous dis bonjour à toute l'équipe de La Fabrique et puis bon vent et on a très hâte de découvrir d'autres bouquins et moi je les présenterai dans ce balado, des livres plein les oreilles. Salut.
Salut.
On continue avec Gérald Cousineau, vous savez, mon ami Gérald, aveugle, non pas de naissance, mais c'est venu petit à petit et qui continue, bon an, mal an, tous les jours même, à écouter des livres audio et à venir nous en parler ici à Canalem, mais aussi d'ailleurs chez Ami Télé. Hein. Gérald, est-ce que tu y es toujours?
Oui, il est ma boule. Il est ma boule des livres, ce monsieur.
Il est complètement ma boule des bouquins.
Ouais.
Avant, il les lisait, maintenant, il les écoute, mais il est toujours aussi ma boule, des mots.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, tu as choisi les mots de Adèle Yon.
Oui, que je ne connaissais pas du tout, mais j'en ai entendu un petit peu parler dans les derniers mois. Mon vrai nom est Elisabeth, donc paru l'an dernier. Et le livre a fait du bruit, et pour de très bonnes raisons. Mm-hmm. Donc, avant d'écouter l'extrait sonore, juste vous dire que Elisabeth, c'est l'arrière-grand-mère d'Adèle Yon. On remonte aux années... Elle est née en 1918, on remonte loin, là. Mais elle est morte il n'y a pas très longtemps. Elle est morte en 1990, 4 ans avant la naissance d'Adèle Yon. Adèle Yon est donc très jeune, elle a 32 ans.
Okay.
Alors, pourquoi Adèle Yon écrit un livre sur cette arrière-grand-mère? Eh bien, en quelques mots, cette arrière-grand-mère-là a été diagnostiquée schizophrène et elle a eu une lobotomie dans les années 50. Oh. Et ça, c'était un secret de famille bien gardé. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on écoute l'extrait parce qu'on va rencontrer un membre de cette étrange famille.
D'accord. Extrait.
Quand tu liras ces mots, j'aurai fini mes jours après avoir basculé dans le vide depuis le balcon de l'appartement que j'ai loué au 7e étage. Avant ce dernier geste, j'ai appelé police secours pour les en avertir, ne leur communiquant que mon nom, l'emplacement de ma chute. J'ai laissé un mot dans l'appartement, indiquant avoir informé mes proches de mes intentions et leur demandant de joindre la police. Je vous envoie le même mail en espérant que l'un de vous trois consultera ces mails dans la matinée. Il faudra que le premier de vous trois à le lire prenne contact téléphonique avec les deux autres pour les informer de ce qu'il s'est passé et du mail que je leur ai adressé. Il faudra joindre le commissariat de police pour information réciproque. À retenir. Ce saut vertigineux n'est pas un geste de désespoir. C'est l'expression de ma volonté. Mourir avant d'être trop vieux pour en décider, avant d'avoir à passer par l'hôpital, volonté de mourir en bonne santé, ou presque. Il ne s'agit pas d'un moment d'égarement. Ma décision remonte à plusieurs mois. Je l'ai arrêtée avec la mise en vente de ma maison au printemps dernier.
Alors, quel est le lien entre ce monsieur qui se fout en l'air et Elisabeth ?
Eh bien, il est très simple. Ce monsieur, d'abord, s'appelle Jean-Louis. Or, Jean-Louis, c'est l'un des frères de la grand-mère d'Adélion.
Okay.
Je n'ai pas dit l'arrière. La grand-mère d'Adélion. Mm-hmm. Et ce Jean-Louis-là, donc, se suicide en 2023. Et c'est après ce suicide que les langues vont se délier dans la famille d'Adélion. Et c'est là qu'il va commencer à enregistrer les membres de sa famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, et qu'elle va prendre des notes pour son livre. Donc, après 2023. Parce que depuis sa naissance, elle est intimidée, si on peut dire, elle est intriguée par cette grand-mère, non, pardon, cette arrière-grand-mère qui s'appelait Elisabeth, mais que tout le monde appelait Betsy, intriguée parce qu'elle avait peur. Depuis son enfance, Adélion dit avoir peur d'être folle, parce que son arrière-grand-mère passait pour être folle. Donc, elle a été diagnostiquée un peu vite schizophrène, et elle a été, à l'instar de son mari et de son père, ben, elle a été lobotomisée. Bon. Et elle a été la première femme en France à être lobotomisée dans les années 1950. Et là, c'est à nouveau un long passage sur la lobotomie. On apprend beaucoup de choses et des choses assez consternantes, mais ça s'est passé comme ça. Vous savez que la première lobotomie a eu lieu en 1935. Et les premières lobotomies se sont faites sur des animaux. Et c'est à partir des années 40-50 qu'on a commencé à lobotomiser des gens. Et devinez qui majoritairement étaient lobotomisés.
Les femmes.
Évidemment, des femmes, majoritairement. Pourquoi? Parce que il y a d'ailleurs une parente d'Adélion qui va en produire une image très forte et très révélatrice. Elle va dire de l'arrière-grand-mère qu'il ne faut pas que ça dépasse. Or, Betsy, elle dépassait de partout. Ça dit ce que ça dit. Hein. Et ça m'a rappelé un livre que j'avais lu, je fais un aparté, sur le Japon. Dans la culture japonaise, il ne faut pas qu'un clou dépasse. Il ne fallait pas. Maintenant, ça a un peu changé, j'espère. Donc, Elisabeth, qui était une femme qui avait un caractère assez fort, eh bien, elle dépassait.
Ouais. Elle dérangeait, dépassait. Quoi. C'est
voilà,
dans ce sens-là.
Elle dérangeait la société de l'époque. Or, elle s'est mariée à un homme qui s'appelait André, et cet André était un catholique fervent pour qui la femme devait être soumise à son mari. Il lui écrit en 1940, alors qu'il est immobilisé, en 1940, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il lui écrit, il va lui dire, « Je suis votre chef. La Providence m'a institué tel. » C'est pas mal, hein?
Mm-hmm.
Mais ça, c'est écrit en 1940. Donc, on a beaucoup de correspondants dans ce livre. On a les lettres du militaire André et à sa fiancée, c'était sa fiancée à l'époque, Elisabeth lui répond, mais on voit tout de suite la différence entre André et Elisabeth. De toute évidence, c'est une femme intelligente, une tête forte. Aujourd'hui, on dirait une maîtresse-femme.
Ouais.
Mais à l'époque, ça ne passait pas. Elle avait des crises de colère et on a fini par l'accuser, donc, ou la traiter de folle. Ouais. Elle déraisonnait selon ses proches. Et bien sûr, on l'a poussée vers les hôpitaux. Elle a été internée pendant 17 ans dans un asile, d'où elle est sortie en 1967 seulement. Et là, cette femme-là qui croyait retourner chez son mari, non. Son mari avait refait sa vie avec une autre femme. Elle va retrouver ses parents à elle, dont elle va devenir la proche aidante. Et elle va encore connaître des crises de colère, des moments difficiles. Mais quand même, elle va vivre jusqu'en 1990. Or, cette femme, elle est absolument fascinante pour nous, lecteurs de 2026. Mmh. Et le livre est d'autant plus fascinant qu'on aurait aimé connaître cette femme-là.
Oh.
Mais Nous sommes dans les années 40-50. Ça ne fonctionnait pas comme ça fonctionne aujourd'hui. Donc, le livre est fascinant. Il y a beaucoup de rapports de psychiatrie parce qu'elle parle à des scientifiques, mais surtout, elle rencontre plein de gens qui ont connu l'arrière-grand-mère. Au début, c'est pas facile. Les gens ne veulent pas parler. Les langues ne se délient pas. Mais peu à peu, elle va réussir à gagner leur sympathie et elle va faire ce livre absolument fascinant, puissant. C'est un premier livre, je souligne, c'est un premier livre. Et c'est puissant du début à la fin. On apprend beaucoup de choses et on est fort intrigué par cette arrière-grand-mère qui, malheureusement, n'a pas eu la vie dont elle avait rêvé parce qu'elle a eu 6 enfants malgré elle. Tous ces accouchements ont été suivis de crises postpartum. C'était très difficile pour elle. Ses enfants lui étaient indifférents. Elle ne voulait pas, on aurait dit qu'elle ne voulait pas être mère. Ce n'est pas la vie dont elle rêvait. Mais elle aimait beaucoup son mari. Elle aimait beaucoup son mari au point de pouvoir le retrouver après sa sortie de l'asile, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, mais les enfants, non, ce n'était pas sa tasse de thé. Donc,
mais le mari, lui, est-ce qu'il la respectait telle qu'elle était ou parce que...
Non, c'est lui qui l'a poussée vers c'est lui qui l'a poussée vers la lobotomie. Il a insisté auprès des médecins. Or, à l'époque, malheureusement, ça se faisait assez facilement. Il y a même des passages où on parle d'un médecin qui se promenait dans la campagne pour faire des lobotomies. C'est incroyable. Avec un simple outil. Vous savez que cette Élisabeth avait 2 trous. Un trou chaque côté de ses tempes. Donc, il y avait 2 trous qui signalaient qu'elle avait été lobotomisée. Et là, on nous explique comment ça marchait. La substance blanche qu'on allait enlever du cerveau. Et après, la femme était supposément redevenue normale. Je mets le mot entre guillemets, évidemment. Donc, elle revenait dans une société. Elle reprenait sa place, autrement dit... Elle se fermait.
Et je suis sûre, quelque part, Gérald, qu'on devait être content, parce qu'à l'époque, on devait se dire, vous savez, des femmes comme ça, avant, on les brûlait. Mais nous, on va les sauver.
C'est ça. Mais malheureusement, la lobotomie, d'ailleurs, on l'a vu au Québec. Au Québec, une chanteuse célèbre, Alice Robbie, l'a été.
J'y ai tout de suite pensé, mais oui.
Et ça l'a démolie, cette femme, ça l'a démolie. Après, c'est plus la même du tout. Donc, il y a une dame dans le livre qui va dire, c'est-à-dire, mieux vaut ne pas vivre ou vivre à moitié que de déranger la société humaine à laquelle on appartient. Mais pourquoi? Quelle est cette société? Mais c'est une société patriarcale, traditionnelle. Donc, il ne faut pas que les fameux clous dépassent, et encore moins quand on parle d'une femme.
Et alors, cette jeune Adèle, est-ce qu'elle est mariée? Intéressant.
Ça, par contre,
non, on sait pas. Non, parce que ce serait intéressant.
C'est une chercheuse. Et ce qui m'a intrigué, c'est que c'est une chef de cuisine dans un restaurant français.
Ah oui?
Je me dis, quel est le rapport? Elle travaille un bout de temps à Marseille, puis dans la Sarthe. Je ne sais pas trop où est la Sarthe, S-A-R-T-H-E.
Oui, T-H-E, c'est plutôt le centre, mais je ne vais pas m'avancer.
Donc voilà, donc on dit qu'elle est chercheuse et chef de cuisine. Mais le livre qu'elle a écrit, vraiment, c'est un livre puissant, je le répète, très formidablement bien documenté. Et l'écriture, aucun problème, ça s'écoute, moi je l'ai écouté bien sûr, ça s'écoute très bien. Et encore là, on est vraiment submergé par la honte un peu. On se dit, c'est pas possible d'avoir traité une dame ou des femmes comme ça. Ben oui, ça s'est passé comme ça, faut pas se le cacher. Incroyable.
Histoire vraie qu'on n'a même pas besoin d'inventer. Malheureusement, ça a existé. Alors, pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, Gérald Cousineau nous parlait de Mon vrai nom est Élisabeth, d'Adèle Hyon.
Encore un livre que je trouve formidable, mais essentiel. Il faut vraiment avoir lu ce genre de livre pour repasser, pour retourner dans le passé et savoir d'où on vient.
Oui, c'est ça. Le poids de l'hérédité, la violence faite aux femmes, la psychiatrie au XXe siècle.
D'ailleurs, Adèle Hyon se demande si l'hérédité a joué un rôle. Et là, là elle a peur. Elle dit, si l'hérédité n'est pas quelque chose là-dedans, ça se fait que je devienne folle. Mais elle appelle ça la transmission héréditaire. Mais on n'en parle pas plus que ça.
Elle a dû changer la vie parce qu'elle s'est bien rendue compte que cette arrière-grand-mère n'était pas folle. Elle était juste forte.
Non,
elle
était même plus intelligente que la moyenne.
Exactement.
C'était ça son problème pour les hommes. Intelligente que les autres.
En tout cas, je me dis que, mis à part l'intelligence, je pense qu'on m'aurait lobotomisé. Allez. Alors, sur ces bêtises, cher ami, on se retrouve très rapidement, peut-être même la semaine prochaine, allez savoir. Allez, merci beaucoup, Gérald, de nous avoir présenté Mon vrai nom est Élisabeth, d'Adèle Hyon.
Superbe livre.
Salut Gérald Cousineau, je t'embrasse. Lorsqu'un grand jeu de réalité explose, lorsque l'intelligence artificielle déraille, lorsqu'un jeu n'en est plus un, eh bien, on est dans ce livre audio qui s'appelle « Le jeu qui voulait ma peau », qui, évidemment, au départ, était un livre papier. « Le jeu qui voulait ma peau », écrit par Magali Laurent, c'est un livre de chez nous qui s'adresse à la jeunesse, aux ados. C'est lu par Pierre-Luc Fontaine. C'est l'histoire de Jackson qui se rend avec sa classe dans un centre de réalité augmentée pour participer à un grand jeu virtuel dont le but est éliminer un maximum de gobelins. Toutefois, il est très déçu parce que sa mère, surprotectrice, lui interdit de porter des lunettes qui permettent d'intégrer l'univers du jeu, jusqu'à ce qu'un ami tente de l'assommer. Bref, la classe va être en danger, Jackson va être le seul à pouvoir les sauver. C'est une production de Radio-Canada Audio, dont voici un extrait, « Le jeu qui voulait ma peau ».
Es-tu prêt à rentrer dans le jeu? Si oui, c'est parti. Prologue. Plein de casques. La caisse tombe lourdement sur le sol cimenté du hangar.
Hey, fais gaffe! C'est du matériel haut de gamme. Il faut pas le briser. Hey, j'en ai plein mon dos, figure-toi. Ça fait des jours qu'on livre ces trucs aux quatre coins de la province. Puis faut aller vite avec ça. Rouler une nuit de même. Je suis fatigué, là. Ce sont juste des lunettes, à ce que je sache. Je vois pas ce qui est si urgent. Juste des lunettes? Tu te fous de moi? C'est la dernière mode, ces gadgets. Le grand patron va piquer une crise si on les livre pas à temps pour le lancement du jeu.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Écrase cette cigarette-là tout de suite!
Ça tombe bien? On a fini. Bon, moi je me tire d'ici.
Les pas de l'homme résonnent dans le bâtiment presque vide. Son comparse lance un juron avant de vérifier que toutes les caisses ont bien été livrées. Finalement, il sort du petit hangar à son tour. L'ampoule au plafond s'éteint, puis une porte claque. Dans l'obscurité, les caisses semblent attendre qu'on les ouvre et qu'on commence à jouer.
On y est, lance-t-elle après s'être arrêtée devant une section de la clôture qui entoure le site. Cette partie a été érigée entre les arbres pour traverser la forêt. Charlotte lâche ma main et se met à quatre pattes. Je constate que la clôture a été déchirée sur une trentaine de centimètres à sa base. L'adolescente se faufile dans la mince brèche en rampant, son fusil tendu devant elle. Plusieurs pointes de fil barbelées s'accrochent à son T-shirt et à son pantalon, mais elle parvient à passer de l'autre côté. Je me mets à plat ventre pour l'imiter. Tandis que j'évolue tel un serpent, des mains saisissent mes chevilles. Charlotte pousse un cri de surprise. J'enfonce mes doigts dans la terre pour maintenir ma position. La première moitié de mon corps est dehors et l'autre moitié sur le site. Je peux pas croire que je vais me faire attraper si près de la liberté. Charlotte pousse un juron, puis elle se baisse et s'empare de mes poignets. Sérieux, Jackson? Faut toujours tu te mettre dans des situations pas possibles. Comme si c'était de ma faute! Charlotte tire de toutes ses forces pour me faire sortir. De l'autre côté, quelqu'un d'autre tire de toutes ses forces pour me faire entrer. J'ai l'impression d'être un os convoité par deux chiens hargneux. J'essaie de tourner la tête au maximum pour voir qui a attrapé mes chevilles. Si c'est un élève avec qui je m'entends bien, je réussirai peut-être à le raisonner. L'espoir est mince, mais je dois intervenir avant qu'il me disloque les bras, les jambes, le bassin et le reste du squelette. Mon regard se pose sur un objet scintillant, près de la clôture, à environ un mètre de moi. C'est une pomme dorée!
C'est écrit au Québec par Magali Laurent, c'est lu au Québec par Pierre-Luc Lafontaine dans les studios de Radio-Canada. Vous pouvez trouver ça sur le catalogue de Radio-Canada Audio. Le jeu qui voulait ma peau et c'est gratos. Enfin bon, ça a déjà été payé par vos taxes, mais maintenant vous n'avez pas à repayer. Voilà, quand je vous dis que j'aurais été lobotomisé. Bon, alors, on va passer complètement à autre chose avec un... Ah ça, c'est un livre que je rêve de lire depuis que je l'ai découvert tout à fait par hasard. Ça s'appelle « Passagère de nuit » au pluriel. C'est écrit par une Haïtienne du nom de Yannick Lahens. En audio, ça a été édité chez Lizzie, c'est lu par deux voix, Marie Sonna Condé et Claïna Clavaron, et c'est Grand Prix du roman de l'Académie française 2025. Je suis convaincue que notre ami Dany Laferrière a dû défendre ce livre bec et ongles, et il a bien fait parce que c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un nouveau roman de Yannick Lahens qui a été écrit à Port-au-Prince alors qu'elle rend hommage, un hommage d'espoir et de résistance à la lignée, à une lignée de femmes dont elle est directement issue. Alors parmi elles, il y a eu d'abord l'ancêtre qui s'appelait Élisabeth Dubreuil, qui est née dans les années 1820 exactement, à la Nouvelle-Orléans. Sa grand-mère, arrivée d'Haïti au début du siècle, est arrivée dans le sillage du maître de la plantation qui avait fini par l'affranchir et qui n'a plus jamais, cette femme-là, voulu dépendre d'un homme. Et s'est inspirée par ce puissant exemple que la jeune Élisabeth, se rebelle à son tour contre un espèce de prédateur qui est un ami de son père. Alors elle fuit la ville et elle devient tout d'un coup passagère de nuit en partance de la Nouvelle-Orléans à destination de Port-au-Prince. C'est toute cette histoire et la longue lignée de femmes qui va suivre que nous raconte Yannick Lahens, Grand Prix du roman de l'Académie française 2025, je vous le rappelle. On en écoute un extrait.
En cette fin d'après-midi, les rares passants avançaient avec peine dans cette ville bouche ouverte, cernée par les marais, menacée par les eaux. Mais si les habitants s'étaient habitués à ces extravagances de la nature, dans la famille Dubreuil, nous avions depuis longtemps appris que les catastrophes faisaient partie de la vie. Dans son enfance, grand-mère avait miraculeusement survécu aux sévices et affres de l'esclavage à Saint-Domingue. Aux trois tremblements de terre du Cap Français en mai 1793, aux incendies, aux cyclones et au massacre des guerres d'indépendance. Elle disait que le malheur la suivait, mais qu'elle ne se retournait jamais pour le regarder, que jamais elle ne le ferait, qu'elle avait toujours avancé. Je ne me suis pas non plus retournée ce jour-là. Trois fois, je m'étais lavée pour que mon odeur ne soit pas reconnaissable. On ne sait jamais. Tant de détails peuvent trahir en pareilles circonstances. J'avais subtilisé un couteau de cuisine que j'avais glissé dans mon sac. Je me suis cachée une heure dans l'embrasure d'une porte cochère, épiant l'arrivée de cet homme que j'avais l'intention de tuer. Et c'est en fixant un point au loin que je l'ai vu avancer dans ma direction. Une silhouette vacillante dans la nuit, encombrée de formes enchevêtrées. Il évitait les obstacles sur son chemin en marchant très lentement. Comme beaucoup d'hommes blancs créoles, il avait une maîtresse, femme de couleur, qui logeait dans le quartier. Il connaissait donc bien cette rue qui menait au prochain pâté d'immeubles chez sa maîtresse. En le voyant arriver, j'ai posé un masque de carnaval sur le visage, changé mon tignon pour un foulard couleur brun jaunâtre, et me suis revêtue d'une veste achetée quelques jours avant au marché français. Je l'ai précédé de quelques pas. Malgré mon châle épais, mes vêtements étaient trempés, mes pieds mouillés, et je commençais à frissonner légèrement, à peine visible dans l'obscurité. Ma volonté tenait tête à toutes ces souffrances. J'ai attendu qu'il soit tout près de moi pour saisir le couteau des deux mains et le lui planter dans la poitrine. À regarder ses yeux, je me suis rendu compte à quel point il a dû être stupéfait de voir une ombre surgie du noir crépuscule s'abattre sur lui. Ses yeux disaient son étonnement et son désarroi, puis s'étaient retournés. On eût dit qu'il se regardait de l'intérieur. Peut-être que toute sa vie s'était déroulée comme une suite d'images fugaces. Il se demandait ahuri et râlant de douleur, qui pouvait être la personne qui lui avait planté cette lame dans le corps. Il a tenté d'avancer en prenant appui sur le mur de l'immeuble au pied duquel je lui avais enfoncé la lame dans le flanc, mais au bout de quelques mètres, il est tombé sur le côté. Il a scruté l'obscurité de ses yeux hagards et, se tenant la poitrine, à regarder mon ombre s'effacer à mesure.
Et voilà pourquoi la jeune Elisabeth a décidé de devenir cette passagère de nuit en partant de la Nouvelle-Orléans vers Port-au-Prince, et elle donnera naissance à d'autres femmes qui, elles aussi, subiront le joug et les horreurs d'autres maîtres sur elles, etc., etc. Et ça finira par être raconté par Yannick Lahens dans « Passagère de nuit ». Pour finir, « Vamos » d'Olivia Ruiz, lu par l'auteur, l'autrice plutôt. Olivia Ruiz, c'est son troisième livre, c'est une plaquette, petite plaquette, c'est relativement bon, un livre de, ça prend 4 heures peut-être à écouter au maximum, mais il est très riche et très riche d'enseignements quand on fait connaissance avec cette Lola, cette maman comme tant d'autres à qui on n'a jamais appris à être une maman, et le petit Yenio, un petit garçon hypersensible à qui lui, il n'y a jamais personne qui lui a appris à être un enfant modèle. Ce gamin-là traverse une période difficile au moment où on fait sa connaissance. Il est victime de harcèlement scolaire. Le quotidien devient pesant pour la mère comme pour lui, le petit garçon. Et un jour, eh bien, la mère décide que si l'école est incapable de lui apprendre la vie, eh bien, elle va lui apprendre par le biais d'un voyage. Alors elle l'emmène partout, Orlando, Madrid, Marseille, elle l'emmène sur les rives du Nil, elle l'emmène absolument partout, jusqu'à La Havane où on pouvait encore aller à ce moment-là. Et c'est vraiment comme une initiation entre cette jeune femme qui est complètement fragilisée par la vie, son couple bat de l'aile, la communication est complètement rompue avec son ex, et puis ce lien qui a fini par se briser avec son fils et dont elle essaie de raccommoder les petits bouts par l'intermédiaire de ce voyage-là. Voici un extrait de Vamos d'Olivia Ruiz.
Je suis une mauvaise mère, une mère désespérée. Une mère, me direz-vous. J'exerce ce travail auquel aucune école ne prépare, alors qu'il mériterait des études supérieures pour éviter trop de dommages collatéraux. Ce boulot pour lequel il faut un mental en béton armé, parce qu'il cristallise tes plus grandes joies et tes plus grandes peurs, sans que l'on t'ait appris comment les faire danser ensemble. Alors on vacille, sans bras auxquels se raccrocher. En réalité, plus qu'une mère, je suis une femme désespérée, à qui le manque d'amour a fait perdre la raison et qui reste attachée à l'objet de sa peine pour un motif incompréhensible. Tout n'est pas la faute de Nathan. J'avais un terrain, une sensibilité que même la brise agresse. Il a toujours fallu que je sois courageuse, et à force de résister, mon armure s'était limée. Je suis donc une femme désespérée et désespérante. On n'a pas le droit de se plaindre quand on a la vie que tu as. Je ne me plains pas, j'appelle au secours. Mais je dois crier à l'aide la bouche close, puisque personne ne semble m'entendre. Je suis trop émotive. C'est ce que disent les miens. Vous, vous avez des papillons dans le ventre quand vous êtes amoureux. Les papillons et la panoplie qui va avec, jambes en coton, cœur bondissant, larmes qui grimpent jusqu'aux yeux, même si on fait tout pour les retenir dans la poitrine. Moi, les papillons, je les ai quand je vois rire un gosse dans la rue. Et devant une œuvre qui me touche, face à mon persil qui reprend de sa superbe après avoir frôlé la mort, en regardant un coucher de soleil après une belle journée, quand une amie à la fin du déjeuner dit « Je t'invite !» lorsque je vois des gens se tenir la main, les vieux amoureux surtout. Mais ça, c'est peut-être parce que personne n'a pris ma main depuis plus de 10 ans. Il y a les papillons, mais il y a les corbeaux aussi. Je sens migrer chacun d'eux en moi par les mêmes symptômes. Alors Corbac et Mariposas se livrent une bataille sans merci qui me secoue jusqu'à l'épuisement. Parce que les corbeaux surgissent aussi souvent que les papillons. Voire plus. Un enfant qui pleure dans la rue. Un regard perdu dans le métro. Un journal télévisé. Une fleur qui se fane trop vite. Mon fils Ennio est le chef de cet orchestre de battements d'ailes qui me bouscule. En général, c'est sa joie qui fait éclore les papillons les plus gracieux et ma peur pour lui qui invite les plus puissants corbeaux. C'est peut-être pour ça que je suis devenue plus vulnérable depuis sa naissance.
le trop-plein d'émotions et la fatigue, ça fragilise les repères et la confiance. Je suis à terre, mais je ne suis pas morte. Et si je réussis, non, comme je vais réussir à ressurgir de l'obscurité tel un indomptable rayon de lumière entre des persiennes, bientôt je serai libre. Bientôt je serai sevrée de cette dépendance à l'amour, du moins à l'affection et au sentiment de sécurité qui va avec. Comme je me suis guérie de mon addiction au travail, quand j'ai compris qu'elle était une fuite en avant. Bientôt, j'embrasserai ce joyeux bordel en vertu de ce qu'il révèle de mes forces. Bientôt, j'aurai réappris à danser sur des stilettos, sur un pied ou encore sur les pointes. Maman, on rentre quand à Paris ? Dans deux dodos, mon petit chat. Arrête de me parler comme un bébé, wesh. J'arrête si t'arrêtes avec ce wesh. T'as pas envie de rentrer ou t'as super envie de rentrer ? Pas hyper envie, mais envie quand même. Ok.
Eh bien voilà ce qui met un terme à cette émission-là. Merci à mes invités, à la semaine prochaine.